Ambient Memory sur Radio Graphite, l'émission dédiée aux musiques ambiantes. Philippe Hall vous transporte vers un nouveau voyage. Ambient Memory, l'interview.
Bonsoir à toutes et à tous, Ambient Memory, l'interview, avec ce soir un artiste lyonnais. Léopold nous parlera de ses différents projets, de son travail musical comme créateur sonore et cinématographique comme compositeur. Il est aussi régisseur, professeur de guitare et fait partie de l'asso Le Séquenceur. Léopold nous parle de tout ça ce soir. Bonsoir Léopold.
Bonsoir Philippe.
Eh bien écoute, merci d'être parmi nous ce soir dans l'émission Ambient Memory. Donc comme je le disais, voilà, on va parler un petit peu de ton parcours musical, de tout ce que tu fais, parce que effectivement tu es un artiste multicarte, tu as pas mal de fonctions si je puis dire. Justement, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots?
Oui, alors c'est pas évident de choisir sur quoi je vais axer un peu on va dire ma présentation, mais je m'appelle Léopold Cordier, je suis compositeur et designer sonore pour tout type de création, donc ça peut être autant des films que des spectacles ou du mapping dernièrement. J'ai fait une fois de la composition pour du théâtre aussi, et je suis géographiquement basé à Villeurbanne, à côté de Lyon. Et par ailleurs, je suis aussi président d'une association qui s'appelle Le Séquenceur, dont on parlera probablement plus tard.
Oui, tout à fait. On reviendra sur les différents éléments, les différentes choses que tu peux faire. Justement, on va commencer. La musique, voilà comment tu as découvert la musique. J'imagine que ça a commencé durant ton enfance. Commence à écouter peut-être les disques de tes parents, enfin je sais pas comment ça s'est passé, quel a été vraiment le déclic, l'étincelle qui t'a fait découvrir la musique.
Paradoxalement, que j'ai pas vraiment, pendant très longtemps, j'étais pas vraiment particulièrement mélomane. J'écoutais les CD qu'on m'offrait aux anniversaires et ça s'arrêtait après là. Donc j'ai baigné juste dans des mélanges assez éclectiques, beaucoup. Là, le premier truc qui me revient en tête, c'est surtout Jacques Dutronc et Simple Minds, donc un peu un grand écart. Après, j'ai eu une petite période de Green Day, les Who, vraiment très assez. Il n'y avait vraiment pas d'étiquette. Et on n'écoutait pas trop de disques chez moi. C'est un peu plus tard que j'ai un peu fait les archives en réparant la platine de mon père, et que j'ai pu un peu découvrir du coup ce côté-là. Mais bref, pour ce qui est de la pratique musicale, j'avais envie quand j'étais tout petit, je voulais faire la trompette. Comme beaucoup de gens, j'ai un peu été découragé par l'éveil musical qu'on offre dans les écoles institutionnelles de musique pour les enfants d'un très jeune âge, 4-5 ans. On est obligé de commencer avant une pratique, en tout cas surtout pour les cuivres. Il n'y a pas vraiment de, comme pour les guitares et les violons, des petits formats de cuivre pour les enfants. Donc, solfège obligatoire, c'est un peu décourageant. Bim, j'ai un peu abandonné cette ambition tout petit. Et c'est un peu plus tard, en fait, on m'a offert une guitare un peu au hasard, une guitare à 20 ou 30 euros pour ne pas prendre de risques, normal. Et au bout d'un an qu'elle prend la poussière, cette guitare, j'ai un peu culpabilisé de ne pas faire attention aux cadeaux qu'on m'avait fait. J'ai demandé à une cousine qui était prof de guitare, enfin qui l'est encore, à l'école de Villeurbanne. Je lui ai demandé de me donner un cours de guitare, et c'était un peu la révélation biblique, quoi. Vraiment, je me souviens encore aujourd'hui les émotions que j'avais en découvrant ce que je pouvais faire avec mes doigts et ces quelques cordes. Donc c'était vraiment guitare classique au début, en jouant des morceaux un peu de rock et de punk à travers ces cours. Et j'ai très vite j'ai découvert en fait la musique en pratiquant, ce qui je suppose peut-être un peu atypique, parce que je connaissais rien à part ces quelques CD dont je parlais. Et en découvrant la guitare, j'avais envie d'apprendre plus de morceaux, donc j'ai cherché, j'ai appris à télécharger illégalement de la musique. Oups. J'ai téléchargé un peu les standards de guitaristes, les Pink Floyd, Jimi Hendrix, Led Zeppelin et consorts. Et j'ai téléchargé, j'ai appris, j'ai cherché les tablatures. sur Internet pour apprendre à jouer mes solos préférés, mes riffs préférés. Et c'est un peu. Après, ça allait vraiment en effet boule de neige. Très vite, là, je vais avoir 11-12 ans et je faisais déjà plusieurs heures de guitare par jour. Je me levais plus tôt le matin avant pour jouer le plus de guitare possible avant d'aller au collège. Je me couchais le plus tard possible pour jouer de la guitare jusqu'à ce que je tombe de fatigue. Et ainsi de suite.
Et du coup, bon, bah, c'était voilà, surtout rock, enfin guitare classique, donc après des morceaux classiques, enfin, peut-être pas forcément, mais aussi du rock, tu t'es intéressé. Et justement, est-ce que c'est durant ton adolescence ou peut-être après ta vie de jeune adulte où tu t'es peut-être plus intéressé à des musiques un peu plus synthétiques, électroniques, enfin, tu en es venu voilà, après à arriver bah, justement à vouloir travailler dans le sound design et puis de tout ce que tu fais actuellement?
Oui, bah en fait, jouer de la guitare et du coup, après, par conséquence de la guitare électrique, ça m'a amené à jouer dans pas mal de groupes depuis le lycée jusqu'à la fac. J'ai fait autant de compositions que de groupes de reprises, des reprises de Frank Zappa et pas mal de choses dans ce genre-là. Et y a un moment où j'ai eu un peu la curiosité, enfin, j'ai un peu la curiosité de me mettre un peu au clavier. J'ai acheté un clavier à 80 €, le truc un peu entrée de gamme pour voir si ça match l'interface des touches noires et blanches, le clavier tempéré. C'était pareil, un peu une révélation. Et comme beaucoup des claviers synthétiseurs d'entrée de gamme ont plein de sons, c'est pas... Le prix est justifié par un défaut de mécanique qui n'est pas vraiment très agréable à jouer, mais généralement ils mettent des flopées de sons différentes, et j'ai parcouru tout ça avec plaisir, parce qu'en tant que guitariste je connaissais qu'un seul timbre, on va dire, et après je pouvais le modifier avec des pédales, mais là j'ai découvert du coup plein de sons que je... je me suis rendu compte que le clavier et les synthétiseurs, c'était des sons qui m'étaient familiers en tant qu'auditeur, mais je ne savais pas comment les appeler jusque-là. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à tous les sons de synthèse. Et là, on va dire, le pivot dans cette démarche-là, c'est quand j'ai lu le bouquin qui s'appelle « Les fous du son » de Laurent de Wilde, qui est maintenant, en tout cas je le sais, une sorte de bible un peu pour pas mal d'aficionados de ce milieu-là. Qui explique l'histoire de la lutherie électronique, on va dire, depuis Thomas Edison, qui est vraiment assez passionnant et qui m'a donné envie de me mettre au synthétiseur. Et donc j'ai acheté, un an après m'être mis au piano, j'ai acheté mon premier synthétiseur analogique, et après là c'était vraiment la chute libre dans l'univers de la synthèse, maintenant j'ai pas mal de synthétiseurs et je m'amuse bien avec.
Et donc le début du commencement, tu as peut-être aussi des logiciels qui te permettent d'avoir bien sûr des claviers, synthétiseurs et puis des logiciels pour faire de la musique. Comment a évolué ton setup, donc d'un simple synthétiseur, après tu en as peut-être acheté un deuxième et d'autres éléments. Comment se construit ton setup de base, si on peut dire ça comme ça?
Oui, en fait, moi, j'ai commencé juste avec du hardware, donc en gros, des instruments physiques. J'avais juste mes guitares, mes basses, mon clavier et mon synthétiseur. Et je me suis dit, je me suis dit, comment j'enregistre ça? Comment je peux commencer enfin à faire de la musique avec un ordinateur? Donc, naturellement, j'ai acheté une carte son. Mais je trouve que la passer du physique au dématérialisé, à l'ordinateur, c'est un peu une des façons les plus dures de l'aborder, parce qu'il faut apprendre à gérer pas mal de problèmes techniques, choisir sa carte son, comprendre les problèmes de latence. Alors que, en tout cas maintenant avec l'expérience, je pense que les personnes qui vont directement dans la production de musique assistée par ordinateur 100% logiciel, il y a moins cette difficulté-là. Donc moi, au début, je me suis heurté à un mur. J'ai mis un an et demi à me faire un peu à l'utilisation d'ordinateur pour faire des compositions. Donc ça a pris du temps, mais maintenant c'est vrai que j'utilise 100% de mon travail se fait maintenant sur Ableton Live. Après être passé par pas mal de logiciels, j'utilise beaucoup d'instruments virtuels pour mes compositions. En plus de, on va dire que maintenant j'utilise les instruments physiques surtout pour la qualité d'expérimentation qu'on perd un peu avec le non physique.
Et du coup, je voulais en venir, voilà, du fait que bon, tu as tout ce matériel aussi, donc ça a aussi un petit peu orienté tes études. Tu as fait l'École nationale de Villeurbanne, tout ce qui touche au clavier justement électrique, la composition électroacoustique, et tu as aussi une licence acoustique et sonore. Donc j'imagine que voilà, ça a été en fait une continuité de se dire voilà, j'aime voilà, jouer du clavier, avoir voilà, différentes machines, ce qui fait que l'un va avec l'autre, les études vont avec en fait cette passion de la musique.
La licence d'acoustique, je l'ai fait avant l'ENM. C'était en parallèle avec ma découverte du chant sonore. C'était littéralement en parallèle à mes études acoustiques. Je suis allé à Montpellier pour finir mes études. Pile au moment où je découvrais la synthèse. Donc j'ai ramené mon synthé Moog dans l'Hérault et j'essayais un peu en plus, ça me permettait de mettre en pratique tout ce que j'apprenais. Je trouve que c'est une partie que j'essaie pas mal de développer dans l'association que je gère à Lyon. Il y a un côté pédagogique à comprendre, un intérêt pédagogique en tout cas à comprendre l'acoustique et comment se comportent les ondes vibratoires, enfin les ondes sonores vibratoires dans l'air. Comprendre ce qu'est une fréquence, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde un spectrogramme, qui sont des choses qui me semblent un peu survolées par beaucoup de musiciens et de musiciennes. Et ça m'a un peu. Je pense que des fois, je me demande si j'avais pas fait d'études d'acoustique, peut-être que j'aurais pas eu cet intérêt pour le bruitage et pour la synthèse. Parce que j'en ai. Enfin, à la base. J'ai ce qu'on appelle, même si j'aime pas trop l'appellation, un esprit scientifique. Enfin, j'ai fait des études de mathématiques et j'étais en classe scientifique pendant très longtemps dans mes études au lycée et au collège. Moi, en tout cas, je pense que j'avais besoin en tout cas, de ce côté un peu rationnel et terre à terre, paradoxalement, pour suivre mon apprentissage des instruments. En plus électroniques, qui sont du coup de fait scientifiques, qui font partie d'une révolution scientifique.
D'accord, et du coup, ça t'a amené bah, justement à devenir créateur sonore et musical. Donc, c'est un petit peu le travail d'ingénieur du son. Tu fais des enregistrements studio, tu t'es aussi spécialisé dans les animations. On en parlera peut-être plus en détail, enfin, on peut déjà en parler en fait, des animations différentes. Donc, ça joint le son, enfin, la parole et la musique, ou simplement la musique peut-être?
Non, j'ai jamais fait de. Enfin, j'ai dû faire qu'une fois ou deux de la voix. Je pense que c'est vraiment pas ma spécialité d'enregistrement de voix, ni le traitement. Non, j'ai surtout fait du bruitage enfin, du bruitage soit pur, concret, soit du bruitage designé. On peut parler, si tu veux, après de la difficulté sémantique, je trouve qu'il y a en français avec le terme sound design que moi je n'aime pas du tout. Et la composition aussi, que souvent j'essaie de mêler un peu au bruitage, c'est un peu ce que mon cheval de bataille dans les compositions, dans les créations qui sont, en tout cas qui se veulent un peu artistiques, de briser un peu la frontière entre ça c'est le bruitage, ça c'est de la composition et faire intervenir des bruitages dans la musique, en rythme. Je trouve que c'est quelque chose qui sert toujours, en tout cas, le résultat, le produit final.
Thank you. Premiers échanges à l'écrit par mail, tu m'avais dit que voilà, on pouvait pas forcément te cataloguer, te mettre dans une case précise dans ce que tu fais. Et c'est vrai, on parle dans l'émission souvent de musique ambiante, mais c'est un terme générique parce que ça englobe tellement de choses, tellement de genres aussi, de ramifications, de sous-divisions. Donc c'est toujours difficile de se mettre dans une case, dire voilà, bah, je suis un artiste ambiante ou je suis un artiste électronique d'une manière générale. Enfin, tu n'aimes pas trop être dans des cases.
Après, oui, pour sound design, je ne parlais pas forcément de cases. Je pense que c'est vraiment une véritable difficulté de la langue. Pour moi, c'est... en fait, en anglais, on a deux termes. On a sound design et foley. Et foley, c'est les... donc, F-O-L-E-Y, c'est les bruitages. Et sound design, c'est un peu plus large. Alors qu'en français, on va dire à peu près les mêmes choses. On n'utilise plus trop le terme bruitage. Et surtout, le sound design, ça parle aussi de... Chez les personnes qui font du synthétiseur, le design sonore, c'est aussi comment on va articuler les différents paramètres d'un objet de synthèse pour en faire un son particulier. En fait, c'est un terme un peu fourre-tout qui, moi, me perturbe particulièrement quand quelqu'un va le dire. Je sais jamais de pourquoi il utilise ce terme. Il ou elle utilise ce terme. Donc c'est un mot que j'essaie de caser le moins possible quand je parle de mon travail. J'essaie un peu aussi d'un peu faire d'éduquer un peu les personnes avec lesquelles je travaille à pas trop utiliser ce mot-là parce que il est un peu à la mode depuis quelques années. Et voilà. Donc là, c'est vraiment pour moi une dissonance cognitive plus que enfin dissonance sémantique plutôt que une case dans laquelle j'ai pas forcément envie qu'on me mette. Ouais.
Tu travailles aussi sur différentes compositions, donc souvent tu joins justement, on va dire, la vidéo à l'audio. Donc il y a différents travails de ta part. Bah, donc c'est vrai qu'on a j'ai une liste. Donc il y a déjà le projet Mango. Donc c'était une improvisation avec un synthétiseur des années 70.
Margot.
Ah, c'est Margot. Ouais, pourquoi j'ai mis Mango? Alors donc c'est Margot. Improvisation donc de synthétiseur des années 70 et enregistrement d'ambiance. Donc on voit beaucoup d'images d'arbres. Donc les images sont travaillées. Donc il y a comme des filtres, des espèces de couleurs différentes, des petits mouvements de caméra, des petites secousses de caméra. Donc est-ce que tu es inspiré par l'image pour arriver à faire de l'audio ou tu as déjà une idée d'une musique, d'un son, et après tu lis ça à différentes images. Comment tu travailles justement?
Alors là, du coup, on est plutôt sur la partie du coup de mes compositions qui sont pas dans des projets audiovisuels en collaboration en tout cas avec des vidéastes. Donc c'est tout ce qui est de mes compositions personnelles comme celle-ci, de mon projet personnel. Généralement, je pars souvent d'une idée visuelle. Enfin, en tout cas, j'ai commencé à composer. Enfin, faut savoir vraiment à la base, moi je suis un musicien de scène. Comme beaucoup de musiciens de scène, j'étais plutôt dans l'accompagnement et l'écriture de mélodies, et ma spécialité c'était un peu l'improvisation. Et quand j'ai voulu composer, à la base c'était un peu par fierté, il faut l'avouer, je me suis dit, en fait, je me suis raccroché un peu à mon amour pour le cinéma, et quand j'ai commencé à composer, c'était vraiment dans l'idée de raconter des histoires. Et à défaut de pouvoir le faire visuellement, je me suis dit, bon, je vais raconter des histoires sonores. C'est là qu'est venu un peu mon attrait pour la musique électroacoustique à la base. Après, c'est devenu un peu plus large pour tout ce qui est un peu bruitage, tout ce qui utilise du bruitage. Souvent, je pars souvent 99% du temps d'une idée qui est un peu visuelle, qui peut être opaque ou figurative. Ça ne veut pas dire que je commence par le visuel, hein. Ça veut dire vraiment que je l'ai en tête, je vois si j'arrive à raccrocher un son à cette ambition qui est dans ma tête. Et si il y a des compositions pour lesquelles je n'ai jamais réussi à faire de vidéo, mais pour le coup, celle-là, ça m'a mis un peu un an et demi à cogiter, à trouver le bon montage sonore qui m'inspirait pour faire le côté visuel. Et puis, en l'occurrence, pour la composition Margot, j'avais envie d'utiliser un processus de destruction des fichiers vidéo qui s'appelle le data mushing, qui m'a fallu un peu de temps à comprendre quel logiciel de compression je pouvais utiliser pour faire ça. Et comme tu disais, il y a pas mal d'images qui bougent parce que j'aime bien l'esthétique caméra au point. Donc je prenais des vidéos en vacances ou en randonnée avec un vieux caméscope numérique. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de filtres en fait. Des fois je traite un peu les couleurs, mais le data mosh c'est une manipulation de la compression, enfin un détournement des erreurs de compression qui vont du coup prendre des couleurs et des images fixes pour après les détruire et les faire un peu se figer sur le mouvement de certains plans de la vidéo, et que je trouve assez intéressant du coup cette manière de modifier un peu la plastique de tout ce qu'on enfin des vidéos. Donc là, après, bien sûr, j'utilise pas mal. C'est pas une seule vidéo, il y a pas mal de montage.
Après, il y a d'autres choses. Alors, je prends un petit peu au hasard, parce que tu as pas mal de tes productions, notamment Pépin. Donc là, c'est encore autre chose. Donc c'est un fond mauve, et on dirait que ça fait des petites cellules qui vibrent vraiment au son de la musique. Donc ça aussi, c'est une idée assez... je sais pas si c'est assez simple, tu vas peut-être me taper sur les doigts si je dis ça, mais voilà, on a quelque chose d'assez, je trouve assez simple, qui vraiment coordonne, qui est bien coordonné avec la musique.
Oui, Pépin, pour le coup, je pense que c'est la seule composition avec laquelle je suis en accord avec le genre ambiante, puisque c'est vraiment quelque chose d'assez simple et qui se savoure dans la durée, dans la longueur. C'est une atmosphère qui, avec derrière un grondement qui, une très très basse fréquence qui berce.
Après, on a aussi convalescence. Alors, c'est encore autre chose. Donc, on te voit avec donc un synthé clavier, synthé modulaire. Donc, c'est une prise de vue assez simple. Donc là, pareil, c'est voulu. Enfin, ça a été bien sûr réfléchi, comme tu dis à chaque fois. Chaque composition, vraiment, tu as l'image en tête de ce que tu veux faire. Et du coup, tu incorpores bien sûr les différents sons. Et donc, ça s'est fait lors d'un, je dis peut-être des bêtises, lors d'un séjour hospitalier.
Oui, bah pour le coup, celle-là, c'est la seule qui est pas vraiment réfléchie visuellement. Là, c'était vraiment une petite tranche de musique que j'ai fait pendant un moment où j'ai passé une dizaine de jours coincé dans une chambre d'hôpital. Voilà, c'est un chouette souvenir, on va dire, d'un épisode moins agréable. Mais c'est la seule qui est vraiment une composition stricte. C'était un défi avec le peu de matériel que j'avais pu me faire amener à l'hôpital. J'ai passé toutes mes journées j'ai passé une journée à faire de la musique. Après, c'était trop fatigant, donc je faisais de la vidéo. J'ai bossé sur les clips d'autres compositions quand j'étais là-bas.
Alors, tu as fait aussi un festival stéphanois où justement tu as fait une performance de 43 minutes qui est intitulée Rétrofit. Donc c'est quelque chose que l'on t'a demandé, ou c'est vraiment toi qui a vraiment monté tout ça de par toi-même, ou c'est vraiment une demande spécifique pour ce festival, ou pas du tout?
Non, on m'a invité au festival et j'avais carte blanche. À vrai dire, le titre, c'était à la base, c'était un peu une blague, quoi, un jeu de mots que j'ai trouvé, parce qu'il me demandait un nom pour le morceau en amont, alors qu'en fait, moi déjà, je savais même pas ce que j'allais faire. Enfin, faut savoir que souvent pour les lives, je sais très souvent pas du tout ce que je vais faire pour un concert, et je trouve que c'est volontaire. Vraiment, j'aime pas faire deux fois la même chose en live, donc je vais souvent réfléchir dans les semaines qui précèdent, ou alors en ce moment, même si c'est un peu plus écrit depuis 2-3 ans ce que je vais faire en concert, je me réserve toujours au moins 30-40 minutes d'improvisation. Et là, pour le coup, c'était vraiment un défi de performance. C'était en février 2020, juste avant le Covid. Et en janvier, j'avais trouvé sur le Bon Coin d'occasion un orgue des années 70, italien. Et j'avais vraiment envie de l'utiliser parce que j'étais complètement fou de ce son qui me rattachait aussi émotionnellement à mon adolescence avec Pink Floyd. Qui utilise énormément de ce type d'orgue, et je voulais utiliser à la fois le modulaire un peu plus moderne, avec des modules très modernes, et donc il y avait un peu ce décalage générationnel de 50 ans entre les deux instruments, et je voulais un peu les mettre ensemble. Donc c'était une performance improvisée où j'enregistrais la radio en direct, je jouais un peu avec mes manipulations audio de la radio, et je jouais de l'orgue dessus avec des pédales d'effet qui déconstruisait un peu l'orgue.
Voilà, vraiment un univers vraiment très, très particulier. En parlant d'univers et de clavier, tu as aussi fait une prestation avec un piano Rode dans une église. Le projet s'appelle Fantomas. Donc c'est pareil, est-ce que c'est une opportunité que tu as eue de pouvoir jouer dans ce lieu? Comment ça s'est passé? Quel a été vraiment le cheminement de ce projet?
Non, pour le coup, c'était un piano et une orgue et un orgue d'église. C'était pas dans une église, c'était une composition que j'ai fait dans mon home studio. C'était pas une performance, c'était vraiment une composition. C'était mon premier défi de faire de composition jouable en live, on va dire. Mais non, malheureusement, ça n'a pas été joué dans une église. J'aimerais bien un jour pouvoir jouer sur un orgue d'église. Ça, l'opportunité se présente, ça je l'accueillerai avec grand plaisir.
Thank you.
Tu as aussi, bon, on va parler. Bon, voilà, on, de toute façon, on peut retrouver toute la discographie sur Bandcamp. Enfin, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'interview. Mais en tout cas, on retrouve les titres dont on a parlé. Mais il y en a aussi d'autres. Il y a donc Vent d'Antan, Oasis, Texture Organique notamment. Bon, il y a plusieurs compositions. On lit quand même toujours le son à l'image. Voilà ce qui permet de voir ta signature. Donc, pareil, quand tu fais aussi, j'imagine, des prestations live lors d'événements divers. Donc, c'est pareil, tu joins toujours le son et l'image. Il y a toujours une projection, peut-être, lors de tes lives. Hein, comment ça s'articule ?
Alors, pendant très longtemps, j'étais justement frustré parce qu'il me manquait cette dimension visuelle que j'ai à la fois soit dans ma tête, soit dans mes clips. Donc, il manquait ça à mes lives. En l'occurrence, pour le festival de la Saint-Étienne, il y avait une vidéaste qui faisait du vidging pendant mon concert. Après, je ne voyais pas, parce que j'étais dos à la scène, enfin dos au mur de projection. Et dans les concerts qui ont suivi dans les années jusqu'à du coup l'an dernier, il me manquait un peu cette dimension. Et donc, à vrai dire, je suis en ce moment en train de créer un projet de spectacle audiovisuel dans lequel je manipule, parce que j'ai déjà fait un concert test de ce projet où je manipule du coup à la fois la vidéo et la musique. C'est un grand défi parce qu'il faut deux cerveaux et quatre bras normalement pour faire ça au minimum. Donc je suis obligé de faire des concessions. Donc je dois des moments du spectacle où je dois automatiser la musique et pendant lesquels je manipule la vidéo, et inversement pendant lesquels il y a une autre partie où je vais faire de la musique en live et laisser la vidéo en autonomie. Mais c'est un processus qui est encore en train d'avancer. Et que j'ai hâte de mettre un peu que j'ai de mettre en scène au final, parce que j'ai fait un concert en octobre 2023 pour l'inauguration d'un nouveau label à Lyon, pendant lequel je leur ai proposé de faire un concert test d'une heure, je sais plus si c'était une heure ou 50 minutes, que j'ai fait avec ce principe là. Mais c'était surtout aussi en fait l'occasion de découvrir des moyens de faire des concerts sans ordinateur, à la fois en vidéo et en audio. Et ce qui est très intéressant, c'est un des plans que je vais développer dans mon association. Et dès que j'aurai un peu plus de temps aussi à consacrer à ce live, je ferai tourner toutes les infos qui lui concernent.
D'accord, bon, on parlera notamment des réseaux sociaux où justement on retrouvera toutes ces infos d'événements à venir te concernant. Donc un projet solo, justement, je voulais te demander si c'était vraiment un projet solo que tu avais, ou des fois tu étais peut-être en duo ou en trio par rapport à des lives, à des événements, mais pour l'instant c'est vraiment du projet solo où justement, comme tu disais, tu manipules et l'image et le son avec des phases où ça reste en autonomie pour que tu puisses gérer l'autre partie et vice-versa. Tu parlais aussi donc de l'association, donc on va un petit peu parler. Oui. Donc l'asso, le séquenceur, donc tu es président de cet asso. Toi, est-ce que tu peux nous en parler justement pour nous la faire découvrir ?
Alors le séquenceur, c'est une association qui a vu le jour en 2016 à Lyon, que moi j'ai rejoint en 2018. Et en gros, c'est une association qui a deux missions principales. La première, c'est de proposer à une communauté de passionnés de musique, on va dire innovante, pour pas dire électronique, parce que musique électronique, il y a un peu une connotation au niveau du genre de la musique électronique. Alors qu'en fait, nous, on propose du coup des événements pour toutes les personnes qui font de la musique sur ordinateur, mais ça peut être la musique orchestrale, comme je sais pas, de la composition sur ordinateur, ça peut être consacré à n'importe quel genre musical, donc on va dire musique plutôt innovante. Donc les personnes qui sont dans ce milieu-là à Lyon vont pouvoir participer à nos événements gratuits, pour soit rencontrer d'autres personnes qui ont la même passion, soit apprendre des choses. Donc pour tout ce qui est rencontre, on va faire des apéros quasi mensuellement, où on va se retrouver dans un bar ou dans un autre lieu pour. Nous, on va faire tester, on va mettre un peu des instruments en libre service pour découvrir des nouvelles technologies, mais sinon, c'est surtout l'idée, c'est un peu plus social. Et pour le côté apprentissage, on va proposer des ateliers soit de construction de modules ou de pédales d'effet qu'on fait une fois par mois. On appelle ça des DIWO, donc c'est le pluriel de DIY, donc Do It With Others, donc, qui met un peu l'accent sur la partie communautaire de la construction. On a des ateliers aussi un peu plus type cours magistral. Par exemple, moi, la semaine dernière, j'en ai animé un sur la synthèse vidéo, justement, qui est une des parties de mon live en cours de création, qui est du coup pour faire découvrir aussi, au-delà de la musique, la création visuelle de formes et d'images complexes, qui au final est assez analogue à la synthèse sonore, donc qui est un truc vachement intéressant et encore vraiment très niche. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur internet de ce côté-là. Prochainement, moi je vais aussi faire un atelier justement sur l'acoustique pour sensibiliser les musiciens et les musiciennes aux lois de l'acoustique. On en a fait sur aussi des trucs un peu plus sur le rangement des dossiers sur ordinateur pour faire en sorte de ne pas perdre un peu son étincelle créative. À trouver ses samples et ce genre de trucs. On invite beaucoup d'artistes de la région lyonnaise à parler un peu de leurs pratiques. Donc ça, c'est un peu un de nos formats les plus en vogue. On fait des jams. Donc ça, c'est assez varié, mais ça, c'est tout ce qu'on va faire en communauté, donc avec des gens qui sont déjà passionnés. Et dans l'autre partie de notre activité, on va intervenir dans des salons ou dans des festivals. Donc là, on va plutôt piocher dans un public qui n'est pas pratiquant, qui ne pratique pas de la musique, donc complètement néophyte, et on va les confronter un peu à du matériel de musique numérique, enfin de musique un peu moderne, pour leur montrer que grâce aux boîtes à rythme ou grâce aux synthétiseurs modernes, on peut s'exprimer musicalement sans pour autant passer par un conservatoire. Parce que ça, c'est souvent un peu l'a priori qu'il y a quand on va intervenir, c'est ah bah moi je connais pas le solfège, ça me fait peur, j'ai pas envie de faire de la musique, je suis pas capable de créer, il me faut un peu ce savoir-là. Et du coup, nous on va un peu faire un travail un peu pédagogique, mais surtout leur montrer que grâce au vin, on va dire grâce aux produits, pour dire grossièrement, qui sont sortis ces 20 ou 30 dernières années, on peut faire de la musique sans rien capter à qu'est-ce que c'est que la différence entre la clé de fa et la clé de sol. Enfin, je dis des trucs un peu au hasard, mais en gros, pas savoir lire une portée va pas empêcher de créer et de s'exprimer artistiquement. Surtout ça, en fait, c'est la partie la plus importante en fait de ce projet en public. Au-delà de ça, d'ailleurs, quand on va dans ce genre de lieu, on va organiser ce qu'on appelle des balades sonores. Donc ça, c'est un format qui est un peu en vogue et qu'on fait depuis 2018, un truc comme ça. On va donner aux personnes qui s'inscrivent un microphone et un casque, tout bêtement, et on les fait se balader dans la forêt qui est à côté du festival. Généralement, on essaie de trouver un peu un lieu naturel, hein, pour pas non plus que ce soit parasité par les sons de voiture ou des sons un peu urbains, mais pour sensibiliser en fait à tous les sons qui nous entourent. Je pense que si il y a des personnes qui nous écoutent qui ont déjà écouté avec un casque un microphone statique, qu'on comprenne vraiment de quoi je peux parler, c'est-à-dire la découverte de tous les sons que font le moindre de nos pas. Le moindre toucher d'une feuille, et c'est assez chouette. Généralement, ça donne un peu lieu à beaucoup de sourires complices de la part des participants et participantes qui découvrent en fait que les sons peuvent être très très précis si on a un appareil qui est capable de les capter, quoi.
Donc c'est bien, c'est un petit peu une initiation, bien sûr. Et après, du coup, on peut poursuivre pour justement, si pour les gens intéressés, pousser un petit peu les choses un petit peu plus loin. Donc, cette asso est assez complète, du coup, hein, entre voilà les différents ateliers, voilà votre présence dans différents festivals, justement pour initier un peu les gens, Donc on a vraiment quelque chose d'assez complet. Et du coup, est-ce que c'est une grande asso? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui font partie de l'asso? Enfin, justement pour dispenser, que ce soit voilà des cours comme tu peux le faire, ou justement des initiations lors de festivals. Est-ce que c'est une grosse association ou vous êtes vraiment un petit noyau dur pour gérer cet asso?
Non, justement, c'est un peu la difficulté et c'est un peu la bénédiction et la malédiction, à mon sens, de l'association. C'est que à la fois, elle est assez petite pour que ce soit facile à gérer et à la fois, on a tellement de charges, on a tellement d'ambition et d'envie et même des fois de demandes, en fait, que notre petitesse rend ça un peu dur à gérer. On a un peu une gestion un peu punk du modèle associatif, c'est-à-dire qu'on n'est pas subventionné, on ne cherche pas particulièrement à le faire parce que ça nous mettrait un peu la pression. Donc on survit seulement grâce aux donations. Enfin, je sais plus si je l'ai précisé, mais tous nos événements sur la partie communautaire, donc on propose à Lyon, sont 100% gratuits. Moyennant une adhésion de prix libre à prix libre annuel. Donc c'est quand même parce qu'on n'a pas envie de faire en fait de discrimination par rapport au budget des usagers, et parce qu'on sait que dans ce milieu là en plus il y a pas mal de gens qui n'ont même pas souvent les moyens de se payer un sandwich, donc on va pas leur demander de payer 30€ pour un cours, et nous ça nous permet aussi d'assumer un peu le côté un peu punk, mais et plus pair à pair, j'aime pas trop cette expression, mais un peu à la cool. En fait, avant, on était une dizaine, avant le Covid, pour répondre à ta question, on était une bonne dizaine, assez mixte, on venait de pas mal de milieux différents, et comme la plupart des associations, la crise sanitaire de 2020, ça a été un peu le défi à relever. On s'est, on va dire que sur le, on, après on s'est retrouvé à deux en fait, avec un de mes collègues Emiliano à gérer ce qui restait de l'association, à surtout en fait continuer à créer en fait des événements malgré les confinements et les couvre-feux. Donc on faisait des événements en ligne. En streaming, et depuis on peine à recruter. De toute façon, recruter dans des bénévoles, c'est vraiment très compliqué, surtout nous en fait on a plein d'amis dans d'autres associations avec lesquelles on collabore, et on a des retours vraiment qui font le même écho, quoi. C'est hyper dur de créer à la fois l'engagement du public, mais aussi de trouver des bénévoles motivé, donc on y va doucement mais sûrement, pour reprendre un peu du poil de la bête.
Bah oui, puis cette crise sanitaire n'a pas facilité les choses, hein, tout assaut confondu. C'est vrai qu'on retrouve un petit peu ce problème, malheureusement, de ne plus avoir forcément assez de bras pour faire tourner l'association, quelle qu'elle soit.
D'où l'intérêt de ne pas être subventionné pour nous, c'est qu'on a moins de comptes à rendre, donc on peut se permettre de rien faire pendant 3 mois si on le souhaite. Ça, c'est chouette.
Est-ce que tu as des projets à venir de live ou autre que tu peux parler, hein, bien entendu?
Non, pour l'instant, à vrai dire, là, je suis vraiment sur le travail du dossier de production de mon projet de spectacle audiovisuel dont j'ai parlé tout à l'heure. Enfin, je peux en dire un peu plus. En gros, j'ai envie d'explorer un peu la thématique, d'explorer la thématique de notre rapport aux souvenirs. Enfin, j'ai envie d'un peu de questionner, mais de façon un peu subtile et intrinsèque, le rapport qu'on a aujourd'hui avec nos souvenirs. Donc moi, je me suis rendu compte, même encore récemment, je me suis mis un peu à prendre la photo argentique, je me suis rendu compte qu'il y avait un... Enfin, j'ai pas envie de sonner un peu comme un vieux con, comme on peut dire, mais qu'aujourd'hui, avec les smartphones, avec les téléphones, on a pris une telle distance avec les images. On a tellement une facilité de prise de vue vidéo et de photos que, en découvrant en tout cas l'objet de la pellicule en 2024, 2023, moi je me suis rendu compte qu'à quel point il y avait un côté vraiment magique et hyper intéressant à se questionner de est-ce que ça vaut le coup que je grille une pellicule pour telle ou telle photo. Bon, bref, sans s'étaler là-dessus, je fais à peu près le même genre de travail dans ce projet-là pour questionner notre rapport. Du coup, aux images plus vidéo en souvenir. Donc, comme je dis, moi j'utilise un vieux caméscope fin années 90, donc vraiment l'ère du numérique, on va dire l'apothéose des caméscopes de consommation tout public avec une qualité assez discutable, mais qui a son charme, que j'utilise en partant en voyage, en randonnée quand j'en ai l'occasion. Pour un peu, à la base, c'était des vidéos que je faisais pour mes archives personnelles, pour un peu faire des fois des séances un peu de nostalgie. Et je me suis et quand j'ai cherché un peu des matières pour ce concert, je me suis rendu compte qu'en fait, visuellement, ça me touchait vachement. Donc j'ai composé autour de ça. Et quand j'ai fait en plus ce live test en octobre, j'avais un peu peur que ça parle pas trop au public, que je montre un peu des vidéos de mes vacances, comme si c'était juste une séance de diapositive à l'ancienne. Et au final, j'ai eu des retours très positifs, de personnes qui m'ont dit qu'ils avaient un peu l'impression de voir leurs propres vacances, des fois parce qu'ils reconnaissaient. Il reconnaissait les rues de Marseille ou telle montagne. Mais en tout cas, c'est un peu ça que j'ai envie de privilégier dans cet aspect un peu intime qui devrait, je l'espère en tout cas, parler à tout le monde. Du coup, un spectacle visuel et audio sur... c'est pour ça que je dis spectacle plutôt que concert, parce que j'ai envie que ce soit un truc un peu presque cinématique ou pour l'immersion, et en fait se plonger... dans les propres souvenirs de chaque personne qui vient le voir.
Oui, c'est un petit peu ça, le son, l'image. Donc on est vraiment dans une ambiance cinématique, tout à fait, on est dedans.
Donc j'espère bientôt le mettre un peu sur pied. Là, pour l'instant, je bosse sur le dossier de production. Ce n'est pas évident de mettre ça en texte, puisqu'il faut à la fois que ce soit vendeur et à la fois que moi j'ai envie de garder un minimum de, comment dire, de transparence sur le côté un peu intime. Et après, j'espère du coup soit trouver des diffuseurs qui seraient intéressés par ce type de concept. Et à défaut, dans tous les cas, je vais le faire tourner au moins à Lyon. Je sais déjà qu'il y a des salles qui seraient intéressées. Donc j'espère qu'en mai-juin, j'aurai des dates. Mais alors, malheureusement, pour l'instant, j'en ai pas forcément à annoncer.
Eh bien, écoute, on reste à l'affût justement de tes réseaux sociaux. Donc, est-ce que tu es très réseaux sociaux, justement, Facebook, Instagram ou autre, pour un petit peu communiquer sur ton projet?
Malheureusement, j'ai un compte artistique Instagram, mais j'avoue que j'ai un peu du mal avec l'interface, en tout cas avec comment dire, la sollicitation que ça entraîne, l'application demande de toujours être assez actif. Donc généralement, moi, je suis actif pendant une semaine et après j'arrête pendant 6 mois, parce parce que je trouve que c'est un peu aliénant. Mais en tout cas, j'espère l'être un peu plus à l'avenir. Si ça, si c'est sûr que si ça peut intéresser des personnes, je ferai le, je redoublerai d'efforts de ce côté-là. Et dès que, en tout cas, dès que mon live sera prêt, je mettrai les bouchées doubles de ce côté-là pour le promouvoir. Mais faut savoir, faut pas s'attendre en tout cas énormément d'activités sur mon compte. Je sais pas comment. Ouais, c'est un peu dur à admettre comme ça en toute transparence.
Oui, après, bah, l'essentiel, c'est voilà, de communiquer, même si c'est un poste, voilà, qu'on ait vraiment l'essentiel, l'information, voilà, bah, concernant vraiment ton projet. Donc, voilà, après, je pense que c'est surtout ça, qu'on peut attendre, dire, voilà, mais il va se passer quelque chose, même si c'est un poste, voilà, au moins on est informé de ce qu'il en est.
Oui, je communique surtout par story en fait sur Instagram. Je trouve que c'est le format le plus confortable et plus que par publication. Oui, je pense aussi, ouais. Ouais. Donc oui, en tout cas, dès que j'ai des dates, je communique là-dessus et sur mes publications de composition.
Et où est-ce qu'on peut trouver tes compositions justement sur Bandcamp? Est-ce qu'il y a d'autres plateformes
Sur Bandcamp, on peut les écouter ou les acheter. On peut les écouter aussi sur SoundCloud, même si je ne suis pas sûr que ce soit à jour. Et on peut les écouter sur YouTube aussi, en tout cas pour l'aspect visuel. Je pense que c'est il y a certains morceaux qui nécessitent, pas obligatoirement en tout cas, mais qui sont peut-être qu'on comprend mieux si on voit la vidéo qui est prévue pour sur ma chaîne YouTube. Oui, je crois que c'est les trois plateformes où on peut les trouver.
Oui, tout à fait. Il y a YouTube, Instagram, ça c'est sûr. Enfin, c'est les deux que j'ai pu. Très bien. Bah, écoute, je te remercie de nous avoir fait découvrir ton univers et puis surtout toutes les facettes voilà, que tu as pu avoir, que ce soit voilà, dans le domaine cinématographique, dans le son. Voilà aussi, de faire découvrir l'assaut de ces cancers, de nous en avoir parlé. Merci en tout cas. Bon, on reste, comme on disait tout à l'heure, à l'affût de toutes les informations, des événements à venir sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, je te remercie aussi d'avoir répondu favorablement à l'invitation d'Ambient Memory.
C'est moi qui te remercie pour ton invitation.
Bah, écoute, le plaisir est partagé. Je te remercie aussi. Et puis bah, voilà, au plaisir de pouvoir t'inviter de nouveau pour parler de tes nouveaux projets à venir ou qui serait sorti.
Super, merci beaucoup.
À très bientôt. Merci beaucoup.
À bientôt.
Merci. À toi aussi.
Bonne
Au
soirée.
revoir.
Ambient Memory.
L'émission touche à sa fin. Retrouvez dès demain le podcast de l'émission sur les plateformes habituelles. Vous avez pu écouter durant l'interview de Léopold Cordier les morceaux suivants. Margot, Koropokuru, Oasis et Départ. Retrouvez la discographie de Léopold Cordier sur son profil Bandcamp. Plus d'infos, n'hésitez pas à contacter Léopold Cordier sur Instagram. Je vous donne rendez-vous, quant à moi, la semaine prochaine pour un nouveau voyage. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao!
Ambiante Memory sur Radiographie.